WTO Kids Promise Down WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir. Donc ce soir, c'est Jean-Jacques qui va nous parler d'un thème assez particulier. Vous en entendrez parler pendant toute cette campagne électorale, mais c'est un sujet qui nous intéresse tous, à savoir le travail.
Alors on va évoquer dans un premier temps les éléments constitutifs du chômage pour savoir ce qui fait que, à un moment donné, dans une société, le nombre de chômeurs s'accroît. Et pourquoi ? Ensuite, on verra comment le temps de travail a évolué. Puis, on étudiera ce qui s'est passé en 1973, dans les années 70 en tout cas, lors de l'augmentation du prix du pétrole qui a poussé l'inflation et qui a engendré une réaction néolibérale, une offensive contre la politique qui était suivie jusque-là. Voilà, ensuite on verra ce qui se passe plus particulièrement aujourd'hui, on essaiera de voir quelles sont les solutions qui sont quelquefois proposées et pas forcément toujours appropriées. On fera quelques propositions et ensuite on verra demain ce qui peut se passer au regard de l'Europe, d'une nouvelle société et les marges de manœuvre qui sont à notre disposition. Voilà, donc Patricia, j'évoque dans un premier temps ce qui s'est passé depuis que le chômage a pris place dans notre société et quels sont en fait les éléments qui font qu'on se retrouve aujourd'hui au niveau qui est évoqué par l'INSEE de 6,5 millions de chômeurs. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que le chômage, c'est la source de bien des maux de notre société, et notamment à l'origine de bien des problèmes qui sont liés à la pauvreté, à l'exclusion. Et bien sûr que quand on n'a pas de travail, les revenus sont modestes, voire médiocres, voire absents, et que cela ne permet pas de s'inscrire durablement dans la société et normalement. Il va sans dire que les besoins que les uns et les autres ont aujourd'hui, pour un jeune qui démarre dans la vie active, pour fonder une famille, pour avoir un logement, pour pouvoir vivre tout simplement, font que les besoins vont être démultipliés à partir du moment où il se retrouve sans emploi et qu'il aura pour seul revenu que des montants qui sont quelquefois attribués, mais en tout cas, lorsqu'on n'a jamais travaillé et qu'on ne bénéficie pas d'indemnités, cela est extrêmement réduit. Il y a aussi, donc ça c'est plutôt pour les jeunes, il y a aussi une autre catégorie qui est extrêmement touchée, ce sont les seniors qui se retrouvent pour une raison ou pour une autre sans emploi, et il va sans dire qu'eux aussi, quand ils veulent à nouveau revenir dans la vie active, quand on se retrouve au chômage à 55 ans, que l'âge de la retraite est à 65 ans, qu'il reste encore une dizaine d'années à travailler, il va sans dire qu'aujourd'hui, seuls 25% des 60-64 ans sont au travail, sont en activité, il faut le savoir, et que celui qui est malheureusement, qui a eu un accident de parcours et dont l'entreprise a été obligée de se défaire de ses services, et bien, a énormément de difficultés pour retrouver un emploi. Voilà. Alors, il faut savoir que tout ça, ça a des incidences sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la santé. Hein. Une étude de l'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale, évalué en 2015 à 14 000 morts par an ceux qui souhaiteraient travailler et à qui la société ne le permet pas. 14 000 morts par an. Alors c'est bien plus que les accidents de la circulation, 3 500, et que les attentats, il y en a eu 149 décédés en 2015 à cause des attentats, ou des autres causes de mortalité qu'on évoque souvent, comme les accidents de montagne ou les accidents de chasse, et qui finalement sont pas si importants que ça. 14 000 morts liés au chômage. Et ce sont pas des éléments qui arrivent sans qu'une étude approfondie ait été faite, parce que pendant 12 ans, les chercheurs de l'INSERM ont suivi 6 000 Français, et dans plusieurs régions. Et ils sont arrivés à la conclusion que les personnes sans emploi affichent un taux de mortalité par suicide plus élevé que les actifs, mais que la perte de travail favorise aussi l'apparition de pathologies cardiovasculaires, notamment. Les risques d'accidents cardiovasculaires et d'infarctus augmentent de 80% par rapport aux actifs. Et alors, c'est aussi élevé pour les femmes que pour les hommes. Alors, pour essayer de dresser un tableau de la situation aujourd'hui, les services de l'INSEE évaluent, toutes catégories confondues, à 6 055 200 chômeurs fin septembre 2016. Et à ces chômeurs qui sont répertoriés à l'INSEE, il faut le rajouter une catégorie qui s'intitule « Halo autour du chômage », entre guillemets. Et ce halo autour du chômage, ce sont les seniors qui sont dispensés de recherche, les découragés, les dépressifs, les sans adresse, ceux qui ne sont pas disponibles immédiatement. Et ce nombre de personnes est évalué à 1,5 million, soit au total 7,5 millions de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui n'en trouvent pas, et ça pour la cinquième puissance économique mondiale. Alors, on peut se poser la question de savoir si le fait qu'être une puissance économique mondiale, si ça ne permet pas de faire le bonheur de tous, c'est peut-être que les critères sont à revoir, ou alors que ce n'est pas forcément son objectif. La lutte pour la civilisation aujourd'hui, ben, elle doit passer par l'abandon de ces références qui donnent une vision erronée. Hein. La valeur économique et la création de richesses aujourd'hui n'est plus du tout du ressort des États et de sa population, mais c'est beaucoup plus les principaux détenteurs de capitaux de la planète qui en sont à l'origine, et ces notions de PIB n'ont plus rien à voir avec tout ça. Alors, si on n'a pas la possibilité d'avoir une certaine reconnaissance sociale, et si on n'est pas susceptible de donner un certain sens à sa vie en société, les premiers démagogues venus, ceux qui vont stigmatiser l'autre, le patron, l'étranger, le bourgeois, le parvenu, vont se trouver sur une autoroute pour avoir l'écoute attentive de celui qui est prêt à tout pour exister, y compris l'irrémédiable, ou alors pour crier son désarroi dans les urnes en votant pour une espèce de Trump, hein. Et alors, ce ne sont malheureusement pas les seules populations sensibles à ces attitudes, parce qu'il faut y rajouter l'entourage proche, ceux qui portent le total des citoyens touchés à au moins le double des chômeurs soit environ 13 à 14 millions de personnes. Et c'est pas rien. Comment est-on arrivé à avoir 7 millions et demi de chômeurs aujourd'hui? Alors, il faut savoir que les notions de travail et de chômage sont apparues au XIXe siècle, avec, au moment de la révolution industrielle, et c'est ce qui a créé cette activité, l'exode rural et le lien de subordination qui, avec un employeur, est l'élément constitutif du travail. Alors, auparavant, une grande partie de la population travaillait à sa propre subsistance, sans alimenter les statistiques. Alors en 1973, et on verra que c'est une période charnière, seulement 400 000 personnes sont à la recherche d'un emploi. Ce sont jamais les mêmes, c'est pour un temps très court, et on considère que c'est le plein emploi. Malheureusement, les effectifs du chômage passent en 1976 à 1 million, ils doublent à 2 millions en 1982, ça devient quelque chose qui est une des préoccupations essentielles à juste titre. Les gouvernements successifs disent en faire leur priorité absolue, et pourtant, malgré les promesses, les discours, la hausse du chômage est régulière depuis la fin des années 70. Alors, est-il concevable qu'une priorité nationale ne soit pas couronnée de succès? Que s'est-il passé au cours des années 70 pour que la tendance au plein emploi s'inverse? Quelle modification substantielle a influencé ce retournement? Quelles en sont les raisons et est-ce irréversible? Alors on va dans un premier temps essayer de voir quels sont les éléments qui ont fait que ce chômage s'est constitué progressivement, puis ensuite on avancera jusqu'à aujourd'hui en passant par les années 73. Alors, les éléments constitutifs du chômage, dans un premier temps, c'est bien sûr l'augmentation de la productivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, au milieu du siècle dernier, les heures travaillées annuellement en France atteignaient 45 milliards pour une population active de 20 millions de personnes. En 2013, le total des heures travaillées diminue à 40 milliards, on était à 45 tout à l'heure, pour une population active qui augmente à près de 29 millions de personnes. Entre-temps, le produit intérieur brut qu'on évoquait tout à l'heure, le total de la production de la richesse nationale, a été multiplié par 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de richesses produites avec 5 milliards d'heures de travail en moins. Et pendant le même temps, on est passé d'un chômage zéro à un chômage de masse. Voilà. Alors, l'exemple le plus significatif, c'est dans l'agriculture, et je vais vous citer un exemple, c'est la production du blé. Au début du 19e siècle, il fallait 200 heures de travail pour produire 100 kilos de blé. En 1955, il ne faut plus que 30 heures. Et en 2013, seulement 2h30. Ce dernier chiffre incluant bien sûr le temps passé à la production des éléments accessoires comme les engrais et le matériel agricole, bien sûr. Alors, les gains de productivité générés dans l'agriculture, s'ils sont les plus importants, ce ne sont pas les seuls. Dans l'industrie, c'est également le cas, même si l'incidence est beaucoup moindre, et ces gains ont permis de libérer bien plus de travailleurs que la main-d'œuvre supplémentaire qui a été dans le même temps nécessaire au développement des services. Donc depuis la fin 70, c'est à peu près 5 millions d'agriculteurs et 1,5 million d'ouvriers en moins. Et pendant la même période, tout ceci n'a été que partiellement compensé par le développement des services qui représente un gain de 5 millions d'emplois. Ce qui fait au total une perte globale liée à l'augmentation de la productivité de 1 million et demi d'emplois.
On se fait une petite pause musicale avec les temps modernes?
Ah ben ça c'est une bonne idée, Patricia.
C'est une bonne idée?
Ça me permet de souffler.
Tu cours toujours à court de jus, c'est la surchauffe. Tu perds du poids, tu passes ton tour. Faut qu'il dégraisse, faut que tu débauches. Va faire un crédit, c'est TLM pour te payer la nouvelle BM. Sors ton costume, faut que tu consommes. Si t'as pas de thune, t'es pas un homme. Faut que t'assures, faut que tu dépenses. Essaie de sauver les apparences. Va faire un crédit Cofidis pour payer les Nike à ton fils. C'est l'engrenage, t'es pris dedans. Tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans. Ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible. Ça va trop vite pour tes guibolles. T'es pris au coup, t'es pris pour cible. On te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez Bébert, te saouler à la Jupilère. Les temps modernes. T'as le spleen, t'es has-been, t'as pas la dernière machine. T'as plus de boulot, t'as plus de copines, ta vie tient même plus à un fil. Va faire un tour sur la toile, te refaire un réseau social. Derrière ta cam de surveillance, tu te sens pas en sécurité. Tu reconnais plus ta douce France, y'a trop de pognon, y'a trop de PD. C'est pas que de la faute à Rousseau, si t'es devenu un vieux facho. Les temps modernes.
C'est Jean-Jacques qui prend la cadence et qui reprend son explication de texte.
Donc, on vient de voir le premier élément qui est l'augmentation de la productivité. Le second élément qui a été déterminant pour la création de ce chômage, ce sont les délocalisations. Alors, dans le secteur industriel plus particulièrement, et assez peu significative jusqu'aux années 90. Par contre, depuis 95, elle croît en passant de 12 000 emplois détruits en moyenne annuelle à 15 000 en l'an 2000, ce qui fait au total 285 000 emplois détruits des années 70 à nos jours. Donc, contrairement à une idée reçue, les délocalisations ont beaucoup moins d'incidence que l'augmentation de la productivité, puisque 285 000 par rapport à 1,5 million d'emplois industriels perdus, cela représente que moins de 20% de la perte totale, contre 80% qui proviennent de l'augmentation de la productivité. Alors, dernier élément, c'est l'augmentation de la population active. Entre 1973 et 2014, la population en âge de travailler, c'est-à-dire les 15-64 ans, est passée de 23 à près de 29 millions. L'augmentation importante du nombre des femmes qui travaillent ou qui souhaitent travailler est pour beaucoup dans cet accroissement. Donc c'est au total 5,7 millions d'actifs supplémentaires sur le marché du travail en 40 ans. Alors si on fait un récapitulatif des pertes d'emplois des années 70 à nos jours, on trouve productivité 1,5 million, délocalisation 280 000, population active 5,7 millions. Si on y rajoute le stock existant en 1973, on l'a vu tout à l'heure, 400 000 personnes, ça fait au total 7 880 000 personnes. Alors il ne faut pas oublier ici les propositions d'emploi qui ne trouvent pas preneur et qui sont quelquefois évoquées pour contrebalancer l'impact des chiffres du chômage, et Pôle emploi les évalue à peu près à 200 000, ce qui ramène donc à 7 680 000, l'écart ainsi calculé, très proche du nombre issu de la statistique annuelle de l'INSEE que j'évoquais en début de propos, qui s'élevait à 7,5 millions de chômeurs. Et compte tenu du halo autour du chômage évoqué plus haut et difficile à déterminer avec précision, on peut considérer que le recoupement coïncide et comprend en conséquence l'ensemble des éléments constitutifs de l'accroissement du chômage des années 70 à nos jours, c'est-à-dire la productivité, les délocalisations et l'augmentation de la population active. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXe siècle pour ce qui concerne la durée du travail? Quelle a été son évolution historique? Ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a considérablement baissé. On travaille à mi-temps par rapport à nos arrière-grands-parents, et si tel n'avait pas été le cas, le chômage aurait atteint des niveaux bien plus importants et insurmontables. Alors, ces baisses, c'était pas pour éviter le chômage. Ce sont les luttes sociales qui ont obtenu cette redistribution des gains de productivité sous forme de baisse du temps de travail, et pas seulement de l'amélioration du pouvoir d'achat des salaires. Toute l'histoire des luttes sociales a été scandée par les combats sur le temps et les conditions de travail. Pour nous remémorer ce qu'elles étaient, c'est à Victor Hugo que je vais donner la parole.
Ah, ben dis donc, on revient en arrière. Mais c'est important des fois pour comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui.
Ouvrez les guillemets. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous les meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, « Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. » Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée. Et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Il faut savoir que les enfants dès l'âge de 5 ans étaient soumis à des journées de travail de 13 voire 14 heures par jour, qui étaient occupés à des travaux difficiles, notamment dans les mines, ce qui entraînait des problèmes de santé extrêmement importants, et c'est ainsi que vers 1830, plus des deux tiers des jeunes ouvriers de France ont été déclarés inaptes au service militaire. L'amélioration des conditions de travail devint alors une nécessité, par humanisme, mais aussi parce qu'il fallait de futurs soldats et en bonne santé. Alors, quelle a été la réduction du temps de travail jusqu'aux années 70 ? En 1840, la durée du travail est de l'ordre de 17 heures par jour, sans congé ni retraite. En 1848, une limitation à 12 heures par jour au maximum est fixée. En 1906, dans le cadre d'une association revendicative assez inédite entre l'Église et la CGT, le repos dominical hebdomadaire est obtenu, certains pour aller à la messe, d'autres pour aller à la pêche. En 1919, le temps de travail par semaine est limité à 48 heures. En 1938, deuxième semaine de congé payé et 40 heures par semaine de durée maximum du travail. C'est le Front populaire. En 1956, troisième semaine de congé payé. Et en 1969, enfin, quatrième semaine de congé payé. Alors, cette évolution n'est pas directement dictée par la nécessité de faire correspondre le nombre d'emplois avec la population active, ni d'éviter le risque du chômage. Elle les accompagne harmonieusement, sans qu'il soit nécessaire de s'en préoccuper. C'est ce qui a fait croire que tout le système pouvait s'ajouter automatiquement et qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir pour maintenir le plein emploi. De Verdun à Hiroshima, l'homme a été réduit à l'état de matériel humain. C'était installé en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, un mode de gestion industrielle des hommes qui était traité comme une ressource matérielle, tout simplement. Aucune préoccupation morale particulière ne venait tempérer l'attitude des décideurs. Alors la leçon d'après-guerre, ça a été qu'afin de favoriser la paix, il fallait enfin affirmer la dignité humaine, se préoccuper des conditions de vie et donc de justice sociale. Et c'est par les accords de Philadelphie en 1944 de l'Organisation internationale du travail qui prescrivent d'évaluer les mesures d'ordre économique et financier au regard de cet objectif de dignité de l'homme et en considérant qu'il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale. La théorie économique montre que les attitudes de la finance, les décisions d'investir des entreprises, les comportements d'épargne ou alors de dépenses des ménages, la répartition de gains ne concourent pas spontanément au plein emploi. Le système économique ne s'équilibre donc pas automatiquement et l'État se trouve donc par là même tenu d'intervenir pour porter remède à l'insuffisance en matière d'investissement et en matière de régulation de droit du travail, notamment. C'est ce qui fut mis en œuvre avec succès durant les 30 glorieuses périodes qui s'étendent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Un interventionnisme d'État maintenait le système avec une amélioration permanente, les salaires indexés sur l'inflation conservaient le pouvoir d'achat des salariés. C'est ce qu'on a appelé les jours heureux. En 1973, j'en ai fait plusieurs fois allusion, c'est le premier choc pétrolier qui multiplie le prix du pétrole par 4 et qui pousse l'inflation qui passe de 5% environ dans les années 50 à près de 15% dans les années 80 et qui fait subir au capital une érosion sensible, insupportable pour certains, qui vont déclencher une réaction d'ampleur aux effets induits catastrophiques encore sensible de nos jours. C'est la lutte contre l'inflation. L'expérience keynésienne subit le feu de la contre-révolution néolibérale, notamment sous l'impulsion du président des États-Unis Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, qui était à l'époque Premier ministre de Grande-Bretagne dans les années 80, puis ensuite de la Communauté économique européenne, avec moins d'intervention de l'État et surtout lutte contre l'inflation. L'inflation érode le capital, Son rendement diminue en proportion de l'augmentation des salaires et des charges. Ce rendement est jugé trop faible par certains, qui ne leur permettrait plus de reconstituer le capital perdu. La bataille contre l'inflation s'engage pour protéger le capital, avec son corollaire, le chômage. Il existe en effet une très forte corrélation entre inflation et chômage. La courbe de Phillips montre qu'un taux de chômage très bas fait augmenter l'inflation, tandis qu'un chômage important la fait diminuer. Bill Phillips est un économiste néo-zélandais. Il a étudié l'évolution respective de l'emploi et de l'inflation pendant plus d'un siècle en Angleterre pour arriver à la conclusion que l'inflation et le taux de l'emploi sont intimement liés et c'est le cœur du débat. En période de plein emploi, les salariés étant potentiellement très mobiles, plus revendicatifs et en position de force, ont tendance à négocier des augmentations de salaire, augmentations répercutées sur les prix par les entreprises, ce qui crée l'inflation. Le phénomène s'inversant en période de chômage fort, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors comment cette politique néolibérale a œuvré ? Tout d'abord, en ne diminuant plus la durée du temps de travail, avec création d'un chômage technologique lié à la forte augmentation de la productivité à l'époque. Deuxième action, limiter la capacité des États, qui est l'agent économique le plus important, à créer directement la monnaie nécessaire au fonctionnement de l'économie. D'abord, ça a été limité en 1973 par Georges Pompidou, qui était bien sûr issu de la banque, qui a supprimé en janvier 1994 la possibilité que la Banque de France avait de prêter à l'État sans intérêt. Et ensuite, en 2001, la création monétaire est transférée directement à la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante des États et dont l'une des missions principales inscrites dans les textes est bien sûr de lutter contre l'inflation, tout en n'ayant pas la possibilité de prêter directement aux États. La BCE prête aux banques qui prêtent aux États, moyennant, tenez-vous bien, 47 milliards d'euros d'intérêts annuels pour la France. Cette lutte contre l'inflation est une belle réussite, puisqu'elle est passée de 5% à l'origine à près de 15% au début des années 80 et a ensuite baissé régulièrement pour se situer, comme ces années, à moins de 1%, avec comme corollaire le chômage de masse, qui est loin d'être la fatalité annoncée. Ce sous-emploi chronique devient une aubaine pour certains, leur permettant d'en profiter pour peser sur la répartition des gains qui sont générés par les productions des différentes richesses. Jamais nous n'avons créé autant de richesses et pourtant la redistribution de cette valeur reste profondément inégalitaire, encore accentuée depuis les années 80. Si on se base sur la moyenne des 30 glorieuses, la diminution de la part des salaires a été de 3 à 5 points de PIB et cela représente annuellement 50 milliards d'euros de manque à gagner pour les salaires par rapport à ce qui se passait au cours des 30 glorieuses. Et même le Fonds international dit que dans les pays membres du G7, la part des salaires dans le produit intérieur brut a baissé de 5,8% entre 1983 et 2006 au profit des dividendes versés aux actionnaires. C'est encore à l'évidence l'un des effets induits par le chômage de masse qui place le rapport de force entre salariés et employeurs en faveur de ces derniers qui auront tendance bien sûr à limiter la part des salaires et à augmenter les bénéfices et les dividendes, la raréfaction des emplois n'incitant pas les salariés à la surenchère. Est-ce que on ferait pas une petite pause, Patricia, pour que je reprenne mon souffle ?
Oh oui, j'ai programmé une petite chanson de Mio Sec. Les touristes, bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'était juste un petit clin d'œil. Ouais. Allez.
Bien et à plus tard. nous attarder. Nous sommes là pour la visite, même si elle n'est pas guidée. On empoche la liste de tout ce qu'il faut avoir essayé. Va-t-on prendre des risques? Sur quel pied va-t-on danser?
Jean-Jacques, on en revient à nos moutons. Donc, depuis les années Thatcher, en gros, donc, on favorise la protection du capital, on utilise le chômage comme une variable structurelle et on en profite pour en faire un élément de chantage au salaire bas. Je te laisse continuer.
Et oui, et malheureusement, aujourd'hui, le mouvement se perpétue. Il s'est même amplifié puisque le chômage n'a cessé d'augmenter, malheureusement. Et pourquoi ? Parce que depuis plus de 30 ans, on s'efforce d'adapter les êtres humains à une organisation déréglementée qui est posée comme une fin en soi. C'est un complet renversement des moyens et des fins qui avaient été affirmés et appliqués avec succès depuis la libération. Ce qui nous pend au nez, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Et où on continue ce que l'on appelle l'austérité, c'est-à-dire la restriction des marchés, en quelque sorte, ou alors on va continuer à ce moment-là de créer une économie qui va tourner au ralenti et la multiplication des cessations de possibilités d'emploi et donc le nombre de travailleurs ne cessant d'augmenter, le nombre de ceux qui veulent travailler s'accroît et en conséquence le nombre de chômeurs s'accroît avec à la clé des instabilités, des incertitudes, ensuite du chômage, puis au bout des droits de la précarité, voire peut-être même pour certains de l'exclusion. Alors, il faut savoir que en Grèce, pour aider à rembourser des dettes extrêmement importantes arrivées à échéance en prêtant de nouveau, la Troïka, composée du Fonds monétaire international, de la BCE, de représentants de la Commission européenne, exige du gouvernement grec la mise en place d'une politique d'austérité, baisse des retraites et des salaires, désengagement de l'État, donc réduction du marché intérieur, avec une diminution de l'activité par cession ou abandon d'actifs publics, comme la télévision par exemple. La situation n'a fait bien évidemment qu'empirer. Chômage de masse, diminution des recettes fiscales et en conséquence s'est créée une plus grande difficulté que par le passé à rembourser la somme due qui est plus importante avec les intérêts. Le taux de chômage grec frise les 25%, il est le plus élevé de l'Union européenne. Son économie s'est rétrécie de 25% par 2009, entraînant avec elle dans des proportions comparables la baisse des revenus des foyers grecs. La pauvreté et la misère se développent et après ce sera qui ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dette de la France s'élève à 2170 milliards d'euros. C'est presque 100% du PIB, c'est 98%. Et elle ne cesse de s'accroître encore, avec en 2015 un déficit de 85 milliards. Et des politiques d'austérité qui laissent présager des lendemains plus difficile. L'austérité va contracter les recettes, les déficits et les intérêts vont augmenter la somme due. Notre modèle social, qui est hérité du Conseil national de la Résistance, nous permet de résister mieux qu'ailleurs, mais les reculs nombreux enregistrés, notamment en matière de droit du travail et de droit social, ne cessent pas d'inquiéter. Et alors on finit, et c'est ça le drame, par s'habituer à tout ça. Saint Augustin nous interpellait déjà à l'époque. Que disait-il ? À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Alors il s'est arrêté là, parce que c'était en 430. Moi, je me permets de rajouter. À force de tout approuver, on finit par tout défendre. Et à force de tout défendre, on va bientôt finir par tout imposer. Quelles sont les solutions qui sont quelquefois proposées et qui n'ont bien évidemment pas donné satisfaction, sinon on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors tout d'abord, la première qui est souvent évoquée, c'est la croissance. La croissance, en augmentant l'activité globale, générerait un regain d'emploi et nombreux sont ceux qui espèrent que son retour va tout régler. Mais déjà en 72, dans son célèbre rapport, le Club de Rome disait qu'il fallait se préparer à une croissance zéro, à la fois incontournable et souhaitable. Il faut savoir que la croissance n'a cessé de baisser depuis l'offensive néolibérale visant à réduire l'inflation par l'austérité au détriment de la valorisation de l'économie réelle. Comment sérieusement envisager qu'on va augmenter l'activité et donc la croissance en ayant une politique d'austérité ? Je vais vous donner les évolutions de la croissance moyenne en France par 10 ans. 60-69, 5,6%. 70-79, 3,7%. 80-89, 2,2. 90-99, 1,9. 2000-2009, 1,5%. Et 2010-2014, 0,7%. Les politiques de restriction réduisent le marché intérieur et ne comptent plus que sur le voisin pour développer les échanges et le chiffre d'affaires des entreprises. Voisin qui lui-même, menant la même politique, ne compte aussi que sur son voisin, etc. La croissance du commerce mondial est tombée d'un rythme de 7% à moins de 2% cette année, selon l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, attendre la croissance pour traiter le problème est au mieux une erreur, au pire une escroquerie, dans le cadre des politiques d'austérité aujourd'hui généralisées.
Je pourrais rajouter aussi, je t'interromps juste une petite seconde, la croissance, mais on sait aussi que les ressources de la Terre sont finies, ne sont pas extensibles, voilà, elles sont déjà utilisées. Donc il faut penser effectivement l'utilisation des ressources potentielles qui restent de manière différente.
Autre élément qui est quelquefois utilisé et dont on facilite l'utilisation, c'est le crédit. Voilà. Si le pouvoir d'achat diminue, il suffit de développer le crédit pour que le marché continue de fonctionner. Alors, pour certains, après viennent le surendettement, puis les saisies, les expulsions, les faillites personnelles, les catégories entières de population dans la misère. L'exemple de l'Espagne ou des États-Unis, il y a quelques années, dans l'immobilier des résidences secondaires, est édifiant à ce sujet. En France, l'ancien médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, a déploré en son temps l'utilisation du crédit, non pas pour investir ou pour des dépenses durables, mais pour la consommation courante, les impôts ou des dépenses de santé. Ce mal endettement toucherait environ 15% des ménages, soit 4 millions, avant de les voir ensuite tomber dans le surendettement qui touche environ 220 000 personnes par an. Miser sur le crédit, là encore, pour maintenir l'activité, c'est pas durable et c'est très contestable. Autre possibilité, c'est le travail, le télétravail, l'économie numérique, les auto-entrepreneurs. Bon, ça peut transformer la nature des emplois par la généralisation des plateformes, bon, qui procurent des petits boulots à des travailleurs dits indépendants, Uber, UPJob, etc. Tout ça, ça exerce un effet corrosif sur les institutions du salariat, parce que comme le note l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la durée légale du travail, le salaire minimum, l'assurance chômage, les impôts, les prestations, sont toujours fondés sur la notion d'une relation classique et unique entre le salarié et l'employeur. Avoir accès au freelance, ça supprime bien sûr les charges, mais aussi les prestations auxquelles elles correspondent. Avec le développement du travail indépendant, un nombre croissant de travailleurs se trouve exclu des conventions collectives. Ils n'ont plus droit aux allocations chômage, à des régimes de retraite et de santé, et sans omettre les difficultés pour obtenir un crédit, par exemple. Dans le cas d'Uber, les chauffeurs peuvent espérer un gain de 750 à 900 euros mensuels pour 70 heures de travail hebdomadaire. Jean-Luc Albert, le président d'Actif VTC, disait tout récemment, ouvrez les guillemets, Uber nous a vendu du rêve, la réalité est un cauchemar. On revient à l'époque de la liberté du renard libre, dans le poulailler libre, et on n'a jamais vu une poule manger un renard. Entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime. Entre une multinationale et un auto-entrepreneur, il n'y aura plus le code du travail, ou au moins ce qu'il en reste. Ce sera la liberté de négociation étouffante à laquelle on assiste aujourd'hui entre les grands groupes alimentaires et les paysans pour la fixation unilatérale des prix agricoles qui ne permettent plus qu'à quelques-uns de survivre. Alors, quelles sont les propositions ? Il faut se dépêcher, le temps passe. Et tout d'abord, il faut arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, il faut arrêter les licenciements. Comment arrêter les licenciements ? Alors, il faut s'inspirer du Canada. La solution passe par la possibilité, en cas de baisse d'activité d'une entreprise, de conserver tout l'effectif au lieu de licencier. Si l'activité baisse de 20%, plutôt que de licencier 20% des salariés, tout le monde conserve son poste et le temps de travail baisse de 20%, ainsi que les salaires. Immédiatement, un versement complémentaire venant de l'UNEDIC permet à chacun de conserver l'essentiel de ses revenus. Sur le plan financier, il n'y a aucun perdant, l'outil de travail est ainsi préservé et prêt à redémarrer immédiatement. Cette pratique qui est proposée par Nouvelle Donne pourrait réduire considérablement le nombre de licenciements. L'entreprise doit d'abord tenter de préserver ses emplois par une baisse du temps de travail de ses salariés et de conserver tout le monde en activité au lieu de voir certains ne plus en avoir du tout, avec les effets induits négatifs sur la santé et la société, comme évoqué ci-dessus. Il est préférable pour la collectivité d'indemniser la différence de rémunération du salarié en activité plutôt que toute la rémunération de ceux qui n'en auraient plus. Le deuxième élément, c'est travailler moins pour travailler tous. La répartition équitable du temps de travail directement productif devient une obligation, non plus pour améliorer les conditions de travail ou pour avoir des loisirs, mais pour poursuivre une évolution séculaire qui a permis de faire correspondre les emplois disponibles à la population qui en recherche, tout simplement. Aujourd'hui, le partage du temps de travail s'opère entre ceux qui ont un travail à temps plein, ceux qui ont un travail à temps partiel choisi, comme aux Pays-Bas par exemple, qui sont à 4/5 par semaine, ceux dont tout le monde là-bas se félicite. Ceux qui ont aussi un travail à temps partiel, mais insuffisant, parce qu'ils n'ont pas trouvé plus, ou intermittent, et donc un revenu trop faible pour vivre décemment. Les temps partiels représentent 17% en France, mais autour de 30% des emplois en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Et aussi ceux qui sont au chômage, 100% d'inactivité. Plus de 10% en France, autour de 5 à 6% dans les trois pays mentionnés plus haut. Alors chaque pays a développé son modèle. Il y a moins de chômeurs dans les pays où le travail à temps partiel est plus développé. Se crée alors une population de travailleurs pauvres pour les temps partiels subis, qui entraîne une situation intenable sur le plan social. C'est cependant une piste intéressante pour les temps partiels choisis. Les situations sont très diverses et les temps partiels regroupent des notions qui ne sont pas identiques et à ne pas confondre. Comme le propose régulièrement et depuis longtemps Pierre Larouturou, il faut organiser le partage du temps de travail en assurant une nouvelle étape de réduction globale, en développant le temps partiel choisi à 4/5 par exemple. Cette condition est nécessaire pour résorber une partie des 6,5 millions de chômeurs. Elle permettrait aux entreprises et aux administrations, en réduisant le temps de travail de l'ensemble de leurs salariés de 10% par exemple, de dégager un temps de travail disponible pour de nouveaux salariés qui, dans l'absolu, pourraient représenter 10% de l'effectif de l'entreprise. Le salaire net est maintenue. Une exonération de 10% des cotisations sociales prélevées principalement sur la part assurance chômage, qui est déjà de 6,4%, pourrait être proposée à l'entreprise pour maintenir le coût global du travail au même niveau et sans augmentation. Il faut savoir qu'entre 1998 et 2003, les lois Aubry sur les 35 heures, qui étaient contrées par le MEDEF, contournées par le grand patronat, pas suffisamment explicitées, ne liant pas suffisamment les avantages créés à l'embauche de nouveaux salariés, ont tout de même créé plus de 350 000 emplois. Ceci a été confirmé par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, notamment. Alors nombreux sont toujours celles et ceux qui refusent d'admettre que la réorganisation du temps de travail puisse être un bon moyen de créer des emplois. Enfermés dans leur dogme d'un autre âge, ils se comportent comme le pape qui, au XVIIe siècle encore, refusait d'accepter que la Terre tourne autour du Soleil. Et comme Galilée, nous sommes bien obligés de leur dire, au vu de constats difficilement contestables développés ci-dessus, et pourtant elle tourne. Au risque, bien sûr, de l'excommunication. Réduire le temps de travail pour diminuer le chômage est intolérable pour les représentants et les idéologues des milieux d'affaires représentés par le MEDEF et l'essentiel de la presse en liberté surveillée par leurs propriétaires employeurs issus des 1% de profiteurs. Ouvrez les guillemets, c'est Laurent Mauduit qui parle dans « Main basse sur l'information ». Les concentrations de la presse entre les mains de quelques milliardaires a atteint en France des proportions inimaginables. Ils contrôlent à eux seuls la quasi-totalité des grands médias nationaux, de la presse écrite ou de l'audiovisuel. Des milliardaires qui ont presque tous acquis des journaux, non sur des logiques professionnelles, mais d'influence ou de connivence. C'est vrai que ces modalités de réduction du temps de travail sont plus aisées à mettre en place pour les grandes entreprises et que c'est beaucoup plus délicat pour les petites, où une certaine flexibilité interne entre certains postes de travail accompagnée de la formation adéquate assurée pendant le temps libéré pourrait grandement en faciliter l'application. Laisser une certaine souplesse dans la mise en œuvre avec une progressivité et des mesures incitatives pourrait permettre d'éviter tout choc sans déséquilibrer le système. Alors c'est vrai qu'il y a des pistes complémentaires que j'évoque très rapidement parce que le temps tourne, et notamment rééquilibrer le partage de la richesse produite. On l'a vu tout à l'heure que la contre-offensive néolibérale avait permis notamment de faire pression sur les salaires et sur la masse globale de salaires au profit de la masse globale des dividendes. Il faudrait réenclencher un processus inverse, puisque le manque à gagner est de l'ordre pour les salaires aujourd'hui évalué à 50 milliards d'euros par an. Parce que la baisse des coûts de production peut se traduire par différents éléments, notamment la baisse du prix de vente, notamment l'augmentation des dividendes, notamment le réinvestissement en machines, ou alors au contraire la distribution de dividendes qui va se retrouver sur les marchés financiers. Voilà, on peut aussi évoquer les petites entreprises qui ont été les plus dynamiques au cours des 30 dernières années, puisque les entreprises de moins de 10 salariés ont créé 62% d'emplois supplémentaires. Ce taux diminue régulièrement avec la taille et devient franchement négatif, moins 36%. Au-dessus de 500 salariés. Quand on parle d'entreprise, il faut savoir de quoi on parle, et avoir le même nom pour des entités fort différentes est un lourd handicap pour la compréhension et les jugements apportés. La terminologie de patronat reflète-t-elle aussi des réalités fort différentes ? Et amalgamer le grand patronat qui est héritier ou qui bénéficie d'un reclassement dans le privé après être passé dans un cabinet ministériel qui joue avec la financiarisation de l'économie, ça va, il ne faut surtout pas le confondre avec le patron de PME ou l'artisan qui œuvre dans l'économie réelle. C'est une grave erreur. Les seconds engageant souvent leur patrimoine personnel et risquant de le perdre en cas de difficulté, les premiers bénéficiant d'indemnités substantielles dans le même cas.
Je vais t'interrompre, Jean-Jacques. On arrive au bout de cette émission. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Tu as cité aussi un certain nombre, un mouvement politique donné. Bon, ce n'est pas la position Atacrone ou Grain de Sable. Grain de Sable est intéressé par tous les débats. Nous allons en avoir là, pendant ces moments d'élection où on va parler beaucoup de travail, réduction ou augmentation du temps de travail d'ailleurs, fiscalité, etc. C'était très intéressant. Merci, Jean-Jacques. Pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir éventuellement ton travail, qui s'intitule, je le rappelle, « Le chômage décortiqué, 14 000 morts par an, ils, entre guillemets, ne veulent pas travailler, point d'exclamation ». Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce travail, éventuellement passez par le site d'Atacrone et en demander à en avoir une copie, c'est possible.
Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir.
Voilà, je laisse la place à Radio Canu. Merci.